Currière, 22 décembre 1982, session du Père Marc et Dominique Philippe sur la charité.
C'est très bien pour la préparation de Noël, vous voyez. C'est très bien pour la préparation de la croix et c'est très bien pour la préparation de Noël, puisque à Noël, c'est l'annonce de la nouvelle alliance. La croix, c'est la réalisation de la nouvelle alliance. Et la Pentecôte, c'est la manifestation de la nouvelle alliance. Le théologien cherche à comprendre ce qu'il y a de commun dans toutes les manifestations, dans toutes les réalisations de cette nouvelle alliance. La nouvelle alliance implique l'offrande de Jésus à la croix, elle implique l'Eucharistie, elle implique le don de Marie. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans ce mystère qui se donne à nous de diverses manières? Et l'Écriture nous parle de l'agapé. L'Écriture nous parle donc de ce qu'on traduit la charité. C'est l'agapé. Vous voyez, saint Thomas serait aujourd'hui, il laisserait sûrement le terme de agapé, j'en suis sûr. Au Moyen-Âge, on était moins friand de grec, alors on mettait caritas parce qu'on parlait latin. Aujourd'hui, nous sommes très friands de grec parce que le latin est usé. Alors, on retourne au grec et alors on dit agapé. Et agapé exprime justement le mystère de la nouvelle alliance. Ce mystère qui existe déjà dans l'ancienne alliance, l'agapé est présente dans le lien qui existe entre Abraham et son Dieu. Mais c'est évident que c'est dans la nouvelle alliance et par Jésus que l'agapé va prendre toutes ses dimensions et que c'est là où on découvrira ce que représente en plénitude ce mystère de l'agapé à travers l'Eucharistie, à travers Marie. C'est ça qu'il faut toujours bien saisir. Alors, le théologien doit chercher le commodo non sit, comment la charité n'est pas tel ou tel amour. Et qu'est-ce qui caractérise cet amour? Qu'est-ce qui caractérise la nouvelle alliance? En réalité, c'est cela, puisque c'est l'agapé qui caractérise la nouvelle alliance. Il faut donc essayer de découvrir ce qui caractérise la nouvelle alliance en essayant de comprendre ce que c'est que la charité en elle-même. Vous voyez, le souci de saint Thomas dans cette question 23 que nous avons déjà vue, mais je la reprends pour que nous puissions être directement à même de comprendre la question qui suit, celle que nous allons voir tout à l'heure, c'est de saisir la charité en elle-même. Qu'est-ce que c'est que ce mystère qui nous lie d'une manière si extraordinaire à Dieu par Jésus et dans le cœur du Christ et dans le cœur de Marie? Qu'est-ce que c'est, autant que nous pouvons l'exprimer, parce que le mystère demeure toujours le mystère, donc ce qu'il y a de plus insondable dans le mystère demeure au-delà de ce que le théologien peut dire. Le théologien balbutie, tourne autour du mystère. Vous savez, un tout petit peu, comme les oiseaux de nuit tournent autour d'une lumière qui les fascine. Le théologien doit être fasciné par ce mystère, il tourne autour et il essaie d'exprimer le mieux possible. La grande intuition théologique de saint Thomas, c'est de dire l'agapé est amitié. C'est la notion d'amitié, d'amour d'amitié, qui va être comme la ligne de crête de tout ce traité sur la charité. Comprenez pourquoi et comment. Puisque l'agapé, c'est l'amour de Dieu qui nous est donné. C'est l'Esprit Saint qui nous est donné par l'agapé. C'est Dieu lui-même qui se donne. Et comme Dieu est amour, c'est la marque de son amour en nous et d'un amour qui se communique d'une manière unique, puisqu'il s'est communiqué cet amour au Fils bien-aimé en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Donc le Père n'a rien gardé pour lui. Il a voulu tout communiquer à son Fils bien-aimé. Et c'est donc cette communication, cette communion, la communion de l'Esprit Saint, c'est cette communion, cette koinonia que le théologien va essayer de préciser. Qu'est-ce que c'est ? La charité en elle-même, l'agapé, prise dans toute sa force. Qu'est-ce que c'est que cet amour de Dieu qui est Dieu lui-même et qui en même temps, parce que il nous est communiqué, et dans la mesure où il nous est communiqué, il n'est plus Dieu. Ce sera ces deux aspects-là que le théologien doit essayer de comprendre. À la fois, je peux dire que l'agapé, c'est Dieu qui m'est communiqué. Et parce qu'il m'est communiqué, il met en nous quelque chose d'unique. Et dans la mesure où il met en nous quelque chose d'unique, ce n'est plus Dieu. L'agapé va réaliser vraiment cette communion avec Dieu. Je suis transformé du dedans pour entrer dans le mystère de Dieu. J'entre dans le mystère de Dieu et de plein pied, puisque c'est par l'amour. C'est la différence avec la foi. La foi et l'espérance ne font pas entrer de plein pied, si j'ose dire, dans le mystère de Dieu, puisque j'y entre avec mon conditionnement humain. De celui qui ne voit pas. J'entre en Dieu en aveugle, et en aveugle de naissance, parce que je ne vois pas. J'ai le privilège quand même d'y entrer, c'est merveilleux, mais je ne vois pas. Donc je suis toujours un peu un aveugle de naissance, hein. Faut pas l'oublier. Le croyant est toujours un peu un aveugle de naissance. C'est pour ça que c'est une situation inconfortable. Comme croyant, c'est une situation inconfortable, surtout quand il opte pour la vie contemplative. Hein. Il veut voir, il veut regarder, et plus il veut regarder, moins il voit. Alors, plus on met du temps avant de comprendre qu'il faut avoir une très grande soif de regarder et en même temps d'accepter de ne rien voir du tout. Et moins on voit, plus il faut avoir soif, et plus on a soif, moins on voit. Alors, c'est ce côté inconfortable de la foi, et qui pourtant est ce qui nous permet d'entrer. Nous entrons dans le mystère de Dieu par la foi. La porte étroite, c'est la foi. Et par l'espérance, la porte étroite de ce que représente le pauvre. On entre tous comme des pauvres. Nous savons très bien que la robe nuptiale, c'est pas notre robe. C'est quelque chose qui nous est donné et qui est à certains moments très inconfortable pour notre nature humaine, quand nous sentons toutes les conséquences du péché qui sont en nous. Et il y a les deux, aveugles et pauvres, sans aucun droit. Et nous entrons de cette manière-là. Mais par l'amour, ce n'est plus notre conditionnement. Par l'amour, nous sommes enfants de Dieu. Et c'est l'homme transformé en enfant de Dieu. Par l'amour, il y a une connaturalité qui s'est faite avec Dieu. Beaucoup plus grande. Nous sommes déjà substantiellement, déjà dès cette terre, dans ce que nous vivrons éternellement. C'est le propre du mystère de l'amour, ça. Le propre du mystère de l'amour, c'est de nous mettre de plein pied, en connaturalité avec Dieu. Nous savons, nous le vivons mal, mais nous savons que c'est comme ça. Nous le vivons mal parce que nous le vivons à travers la foi et l'espérance. Et alors nous le vivons mal à cause justement de cette pauvreté de la foi et de l'espérance. Mais c'est ce mystère. Nous sommes déjà dans le mystère de Dieu, fixés dans le mystère de Dieu par la charité. Et le théologien doit essayer de nous faire comprendre ce qui caractérise justement ce mystère. Et alors il prend l'analogie de l'agapé. il prend l'analogie de ce que représente le point de vue de l'amour d'amitié. Et c'est cette analogie de l'amour d'amitié qui va être comme l'orientation. Alors pourquoi l'amour d'amitié? Parce que, au point de vue philosophique, c'est dans l'amour d'amitié que l'amour est le plus parfait et le plus amour. Humainement parlant, l'amour se trouve réalisé dans l'homme selon des modalités différentes. L'appétit instinctif, le point de vue passionnel, le point de vue imaginatif, le point de vue de l'amour spirituel, du désir, et puis cette chose très étonnante que représente l'amour d'amitié, où il y a rencontre de celui qui aime et de celui qui est aimé. Humainement parlant, c'est l'amour d'amitié qui nous met en présence de l'amour dans ce qu'il a de plus parfait. Le théologien le sait s'il est intelligent, c'est-à-dire s'il est un peu philosophe. Il sait que c'est cet amour d'amitié qui est l'amour le plus parfait. C'est donc dans l'amour d'amitié qu'il va pouvoir trouver l'analogie la plus parfaite pour essayer d'exprimer ce que Dieu nous communique. Et il sait qu'il peut le faire parce que dans cette koinonia que l'Esprit Saint nous donne par l'amour d'amitié, c'est une alliance. C'est le terme de l'alliance. Nous sommes dans une alliance nouvelle, une alliance parfaite. C'est une alliance personnelle. Une alliance, c'est réciproque. Or, on retrouve cette réciprocité à l'intérieur même du mystère de l'amour d'amitié. Je veux dire, à l'intérieur même de l'amour d'amitié, j'ai cette réciprocité. Et c'est ça qui est très étonnant. C'est que, de fait, si j'essaie de saisir ce qu'est l'agapé, de la manière la plus parfaite, je vois que l'agapé implique cette réciprocité. Oui. Alors, c'est pour ça que l'analogie première que prend saint Thomas, c'est le point de vue de l'amitié. Ça, je crois qu'il faut souvent, au point de vue théologique et au point de vue contemplatif, comprendre cet article premier de la question 23. Allez, on doit le mettre en pleine lumière. Surtout que ça a été très discuté récemment par tout un courant de théologiens et d'exégètes. Nigrens a mis ça complètement en au nom de l'exégèse, on a dit saint Thomas n'a rien compris. Il n'y a pas que à cet endroit-là, mais souvent on dit ça. Au nom de l'exégèse moderne, saint Thomas n'a rien compris. Alors on fait de l'exégèse, vous voyez, la mesure, on fait des conclusions exégétiques, la mesure de la tradition. Alors que je crois que saint Thomas a parfaitement saisi de l'intérieur le mystère de la nouvelle alliance. Et nous sommes bien obligés de le dire puisqu'il est saint. Donc il l'a saisi. Nigrens n'est pas encore saint, n'est-ce pas, et canonisé. Le jour où il le sera, alors à ce moment-là, on pourra commencer à se demander si. Mais tant qu'il ne l'est pas, je maintiens cette chose merveilleuse, qui est du reste le fruit de toute la grande tradition. Saint Thomas le précise d'une manière plus forte que tout ce qui est avant. Et cette précision est un acquis pour l'Église. Et depuis, je n'ai plus le droit d'aller contre. Il y a là quelque chose qui me semble très très fort et très important. Vous comprenez que si la charité n'est pas un amour d'amitié, il n'y a plus de contemplation. C'est pour ça que saint Thomas y tient tellement. Il n'y a plus de contemplation. Je ne peux plus justifier théologiquement la contemplation. C'est très ennuyeux. Alors je suis obligé de dire la mystique, hein, que voulez-vous, la mystique c'est pour certains. Mais on ne peut pas la justifier. Alors que si l'agapé est un amour d'amitié, l'agapé me conduit nécessairement à la contemplation. L'agapé me conduit nécessairement à cette intimité de l'époux et de l'épouse, du bien-aimé. Nous cherchons le bien-aimé et le bien-aimé nous cherche comme étant son bien-aimé. Et c'est cela qui nous est montré dans un point de vue proprement théologique et dans une théologie scientifique, donc rigoureuse, cet article premier. C'est un amour d'amitié, donc réciproque. Nous aimons Dieu pour, nous aimons le Christ pour lui-même. Et nous savons que nous pouvons l'aimer pour lui-même parce qu'il nous a aimé le premier. Mais nous l'aimons pour lui-même. Nous ne l'aimons pas à cause de telle ou telle petite consolation qu'il nous donne, mais nous l'aimons pour lui-même. Voilà la purification de l'amour d'amitié. Et nous savons que Jésus nous aime pour nous-mêmes et que nous sommes entièrement remis dans son cœur, entre ses mains. Nous lui appartenons. Cet amour d'amitié va impliquer au plus intime de notre âme quelque chose de créé, le sceau de l'Esprit Saint, la marque de l'Esprit Saint. Cet amour d'amitié nous met en Dieu et met Dieu en nous. Toujours le double mouvement de Saint Jean, hein. Demeurez en moi et moi en vous. Eh bien, si vous voulez expliquer ça, il faut nécessairement l'article premier et l'article second de Saint Thomas. C'est ça qui est intéressant à voir. C'est que directement, si je veux comprendre avec toute sa force cette affirmation qui est constante dans l'évangile de Saint Jean, demeurez en moi et moi en vous, parce que c'est ça l'alliance dans ce qu'elle a de plus fort, demeurez en Dieu, c'est l'aimer. Je ne peux pas demeurer en Dieu sans être totalement donné. Autrement, je ne peux pas demeurer en lui. Donc c'est être totalement donné. Et je demeure en lui dans la mesure même où mon amour est actuel. Dans la mesure même où je désire être entièrement donné. Et dans la mesure même où toute ma grâce est entièrement mise en exercice. Donc que j'entre dans cette ferveur d'amour. Et il demeure en moi. Et dans la mesure où il demeure en moi, nécessairement, il marque au plus intime de mon âme quelque chose. Qu'est sa marque divine ? Et c'est ce quelque chose de créé. Je précise que ce quelque chose de créé est une vertu. Alors pourquoi vertu ? Là encore, comprenons bien. Vertu parce que la marque la plus parfaite qui soit dans l'ordre spirituel, c'est lexis, en grec. Lexis, ça va mieux que vertu. C'est lexis. C'est la marque profonde de l'Esprit Saint en moi. Or, au plan philosophique, quand je veux comprendre la marque profonde de la finalité sur moi, je dis qu'il y a exis, c'est-à-dire cette disposition habituelle, qui me permet de pouvoir réaliser quelque chose de plus parfait. Ça me donne une capacité nouvelle d'agir, l'exis. Une capacité nouvelle, l'habitus. Une capacité nouvelle d'agir. C'est à la fois une marque et en même temps un appel. Il y a les deux choses dans l'exis. C'est une marque et un appel. Eh bien, la charité, c'est la marque de l'Esprit Saint en moi. Si je voyais une âme en état de charité, si je voyais, je pouvais voir votre charité, je verrais directement le Saint-Esprit. Merveilleux. Je ne pourrais pas voir votre charité, votre exis, hein, cette marque est en vous, la fragis, la marque de l'Esprit Saint en vous, sans voir l'Esprit Saint. C'est ça que ça veut dire, hein, c'est la marque de l'Esprit Saint, la trace de l'Esprit Saint. Mais pas la trace, voyez, uniquement, comme la trace qui est une trace passagère, c'est bien plus, c'est l'effigie, l'exis, hein, c'est la physionomie même de Dieu qui est dans notre âme. Notre âme, par la charité, reflète le mystère de Dieu. Le miroir qui reflète la gloire de son origine. Et c'est ça, exis. Si on veut traduire un tout petit peu, avec nos pauvres mots, ce qui est un mystère qui nous dépasse complètement. Alors, l'exis, c'est ça. La vertu, c'est ça. Et alors, on montre que cette vertu est une vertu spéciale, est une vertu unique. C'est bien évident, c'est la plus belle des vertus, la plus excellente, on est au sommet de toutes les vertus, et que cette vertu, elle a justement ce rayonnement à travers toutes les autres, et elle est la forme des vertus. C'est pas étonnant. Si c'est vraiment la marque du Saint-Esprit en moi, si vraiment cette marque du Saint-Esprit en moi est une marque directe du Saint-Esprit, mais elle transforme toute mon âme. Et toutes mes activités sont transformées par ma charité. Et la charité demande de transformer toutes mes activités. Et c'est ce que je dis quand elle est forme des vertus. Si la charité est là en moi, elle demande de régner. Elle demande de s'emparer de tout. Autrement, ce ne serait pas l'amour de Dieu, l'effet de l'amour de Dieu en moi. C'est ce qui achève, ce qui donne la plénitude à tout. Vous voyez comment cette première question est commandée par la parole de l'évangile de Saint Jean, demeurez en moi et moi en vous. Je crois que c'est la traduction au niveau de la théologie scientifique de la manière la plus forte de cette affirmation. Demeurez en moi, soyez totalement donné, la charité vous permet d'être entièrement donné, d'être en état d'extase. C'est ça le don le plus profond de tout nous-mêmes. On est entièrement donné. Et au moment même où l'on est donné, Dieu se donne. Dieu ne peut se donner et habiter en nous que dans la mesure où je suis donné. Et alors c'est la marque de Dieu en moi. Et cette marque de Dieu en moi, c'est la charité. Alors vous comprenez bien, quand vous dites vertu, ne ramenez surtout pas ça à une vertu. Une vertu, une perfection. On est une espèce de petite décoration du Saint-Esprit dans mon âme. J'ai une petite décoration merveilleuse. J'ai la vertu. Non, il faut saisir que c'est un état. Un état qui réclame une transformation complète de tout moi-même et qui me permet de répondre à tous les appels de Dieu. Il y a en moi cet état nouveau. L'amour de Dieu me stabilise en Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit « exis », ça me stabilise en Dieu. Vous voyez, le vœu de stabilité n'est pas autre chose que de répondre à cet « exis ». Il ne faut pas l'oublier. Il n'y aurait pas de vœu de stabilité s'il n'y avait pas l'exis. C'est impossible. L'exis dit la stabilité. C'est ça qui est très curieux. Être stabilisé, le vœu de stabilité, dans être stabilisé dans l'amour, c'est justement ce fait que Dieu met sa marque dans mon âme. Alors on est stabilisé dans l'amour. Et on comprend cela et on répond à Dieu dans ce fait qu'on veut aller le plus loin possible dans sa réponse à son amour, et aller le plus loin possible dans la réponse à son amour, c'est justement être stabilisé au sens fort, au sens divin, vous voyez. Il y a une emprise de Dieu sur ce qu'il y a de plus profond dans mon esprit, dans mon âme, qui permet de répondre à Dieu dans la ligne même de Dieu, dans l'orientation même de Dieu. Nous allons tout de suite entrer dans la question 24. Nous devons maintenant considérer la charité par rapport à son sujet. Vous voyez, c'est l'analyse de l'exis. C'est pour ça que c'est très important de comprendre comment et où se fait cette marque de Dieu. Comment la communion avec l'Esprit Saint et cette marque de Dieu se fait au plus intime de ma volonté, nous allons voir. À ce propos, 12 questions. La charité est-elle dans la volonté comme dans son sujet? Alors, il faut bien comprendre, on va tout de suite voir cela. Est-elle produite en nous par des actes antérieurs ou bien est-ce Dieu qui nous l'infuse? Ça, c'est très très important. Quelle est notre part dans cette exis qui nous est donnée? Dieu l'infuse-t-il en nous d'après nos capacités naturelles? Est-ce que nous sommes bien nés pour bien recevoir la charité? Ou est-ce que la charité est donnée selon le bon plaisir du Christ sur nous? La charité augmente-t-elle chez ceux qui la possèdent? Quand il s'agit de la croissance de la charité, y a-t-il possibilité de la croissance de la charité? Est-ce qu'on peut parler d'une croissance de la charité? Augmente-t-elle par addition? Quelque chose qui vient s'ajouter. Augmente-t-elle à chacun de ses actes? Augmente-t-elle à l'infini? Ça, c'est la question de la sainteté. Augmente-t-elle à l'infini? Est-ce que la charité peut aller le plus loin possible? La charité d'ici-bas peut-elle être parfaite? Y a-t-il une perfection plénière dans la charité? Les différents degrés de la charité. Et alors là, c'est aussi très important pour notre croissance d'amour. La charité peut-elle diminuer? Peut-on la perdre une fois qu'on la possède? La perd-on par un seul acte de péché mortel? Vous voyez donc, c'est le fait qu'il y a croissance de la charité. Alors la charité est en nous ce qu'il y a de plus vital. Alors c'est important d'essayer de comprendre la croissance de ce qui est vital en nous. Alors est-ce qu'on peut découvrir cette vitalité en nous? Y a-t-il en nous cette croissance d'amour qui va jusqu'au bout des exigences de l'amour? Et puis, jusqu'où va cette croissance? Et est-ce qu'il peut y avoir rupture? Est-ce qu'il peut y avoir une rupture dans l'ordre de l'amour? Alors l'article premier, vous comprenez que c'est l'article clé. Exactement comme dans la question précédente. La volonté est-elle le sujet de la charité? Alors ça, c'est très beau aussi, n'est-ce pas? C'est que, vous voyez, là, c'est la lumière du théologien. Je peux avoir une lumière sur la volonté, qui est une lumière philosophique. Et je peux avoir une lumière sur la volonté, qui est une lumière théologique. Et par la charité, je vais éclairer ce que c'est que la volonté. Quand je vois que la charité vient de Dieu, qu'elle est, au fond, l'amour de l'Esprit Saint en moi, et que cette charité est reçue dans ma volonté, ça me fait comprendre ma puissance obédientielle de la volonté, que je ne comprends qu'à partir de la charité. Ça me fait comprendre jusqu'où va cette grandeur de la volonté. Donc j'ai une nouvelle, dans cet article, je dois acquérir un nouveau regard sur la volonté. Vous voyez, je peux avoir une conception de la volonté au plan philosophique, et vous savez bien que la conception de la volonté au point de vue philosophique, elle n'est pas toujours la même. Hein. Celle d'Aristote, celle des stoïciens, celle de Descartes, celle de saint Thomas entre deux, c'est des conceptions de la volonté qui ne sont pas si communes que ça. Si je vous demandais d'écrire sur un petit bout de papier qu'est-ce que c'est que la volonté pour vous, j'aurai sûrement des réponses stoïciennes, des réponses cartésiennes, des réponses de saint Thomas, des réponses, je suis sûr, parce que chacun d'entre nous, nous avons notre petite conception de la volonté, n'est-ce pas, avant d'arriver à pleinement. Et puis, si vous êtes parfaitement chrétien, j'aurai une réponse théologique. Qu'est-ce que c'est que la volonté pour le chrétien? C'est ce qui me permet de répondre à l'amour de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ce qui me permet de répondre à la grandeur. Et de me répondre consciemment et librement. Je ne réponds pas au niveau de mes sentiments, je réponds au niveau de ma volonté. C'est la grandeur de la volonté, ça. C'est la volonté, c'est l'esprit qui reçoit de Dieu cette marque d'amour et qui peut alors répondre amour sur amour. Et volontairement. Oui, la volonté est ennoblie par la charité, elle est ennoblie d'une façon telle qu'elle devient une manière pour moi de répondre divinement, de répondre comme l'Esprit-Saint lui-même se donne au Père et au Fils, et sous le souffle de l'Esprit-Saint, et de le faire volontairement, librement, consciemment. Oui, c'est là où je saisis combien tout mon être est transformé par la charité. Et là, je vois tout l'abîme qu'il y a entre la réponse psychologique et la réponse divine. La réponse psychologique est au niveau de mon conditionnement. Et mon conditionnement, on sait très bien ce qu'il est. Il est toujours un peu lézardé, avec un tas de choses qui sont les lézardes psychologiques et les conséquences psychologiques, tandis que ma réponse divine, elle est au niveau de ma charité ennoblie par l'amour divin, donc par la charité, par l'agapé. Alors voyons tout de suite ce premier article. La volonté est-elle le sujet de la charité? Cependant, le bien est objet de la charité. Il est aussi l'objet de la volonté. La charité est donc dans la volonté comme dans son sujet. C'est très simple comme réponse. Puisque, de fait, l'objet de la charité, c'est Dieu amour. C'est Dieu amour. C'est Dieu en tant qu'il est le bien. Or, la charité, la volonté regarde le bien, donc, ce que ennoblit en nous la charité ne peut être que la volonté. Alors voici la réponse de saint Thomas. Il y a, nous le savons, deux appétits. L'appétit sensible et l'appétit intellectuel, nommé volonté. Ça, il faut toujours se rappeler ça, hein, que pour saint Thomas, la volonté, c'est l'appétit intellectuel. C'est beaucoup plus beau que volonté. J'aime mieux dire appétit intellectuel, moi, personnellement, parce que c'est moins fatigué. Pas du tout la volonté de domination, c'est pas du tout la volonté d'efficacité. La volonté, c'est votre cœur profond. Alors, essayez de mettre ça progressivement. Quand vous entendez volonté, pensez à votre cœur profond qui s'éveille. Votre cœur profond, c'est votre appétit intellectuel. C'est votre appétit spirituel, intellectivus. C'est très beau, ça. C'est en vous, la volonté. C'est dans votre esprit, dans ce qu'il y a de plus profond dans votre esprit, la capacité d'aimer. C'est bien ça, votre cœur profond. Votre cœur profond, c'est votre capacité d'aimer. Autrement, je n'y comprends rien. Votre cœur profond, ce n'est pas votre capacité de dominer. Votre cœur profond, ce n'est pas votre capacité d'efficacité. L'efficacité viendra après. Il ne faut pas la couper. C'est bien évident. C'est parce que vous aimez beaucoup que vous pouvez réaliser beaucoup de choses. Mais les réalisations sont secondaires. Ce qu'il y a de premier, c'est l'amour. Oui, c'est tous les rapports entre la contemplation et la vie apostolique. La contemplation, c'est l'amour dans ce qu'il a de plus pur. C'est le cœur de Marie. C'est l'amour dans ce qu'il a de plus pur. C'est l'amour pour lui-même. Tandis que nécessairement, la vie apostolique s'enracine dans l'amour, mais c'est quelque chose qui vient après. C'est pour saisir les deux rapports, c'est toujours très important. La vie apostolique est une vie d'amour, c'est bien évident. Mais c'est une vie d'amour qui n'est pas uniquement à sa source. Tandis que la vie contemplative, c'est une vie d'amour qui est uniquement à sa source. C'est pour ça que c'est très beau de le voir de cette manière-là. Deux appétits, l'appétit sensitif et l'appétit intellectuel, nommés volonté. Ils ont pour objet le bien, mais de façon différente. Car l'objet de l'appétit sensitif, c'est le bien connu par le sens. L'objet de l'appétit intellectuel ou volonté, c'est le bien sous la raison commune de bien, tel que le peut connaître l'intelligence. Alors il faut faire grande attention ici, hein. Il ne faut pas intellectualiser. Parce que si je prends un peu matériellement ce que dit saint Thomas, j'intellectualiserai et ça n'irait plus du tout. L'objet, voyez, l'objet propre de l'appétit sensible, c'est le bien connu par le sens. C'est le bien sensible, tout simplement. C'est le chocolat qu'on vous présente. C'est ça le bien sensible. Alors quand on a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, et qu'on vous présente un chocolat, n'est-ce pas ? Ça c'est le démon moderne qui présente le chocolat. À Jésus, on le c'était encore assez frustre, alors on disait que c'est du pain, tandis qu'aujourd'hui c'est du chocolat. Le démon est devenu plus habile. Alors on présente du chocolat, vous vous jetez dessus. Le bien sensible, ça, c'est le bien sensible, c'est le chocolat. Donc l'objet de l'appétit sensible, c'est le bien sensible. L'objet de l'appétit intellectuel ou volonté, je dirais, c'est le bien spirituel. Vous voyez, saint Thomas dit le bien sous la raison commune de bien. Traduisez le bien spirituel. Mais parce que le bien sous la raison commune de bien, nous mettons quelque chose d'abstrait. Sous la raison commune de bien. Alors, c'est pas ça du tout. Le bien n'a rien d'abstrait. Autrement, c'est plus le bien. Vous savez bien, le vieux Molière disait ça. Hein, l'amour du genre humain. Il y a des gens assez curieux qui aiment l'humanité. Moi, j'aime pas l'humanité, j'aime des hommes. Le Saint-Père dit jamais qu'il faut chercher ce que c'est que l'humanité. Jamais, jamais. vaut mieux, parce que s'il disait chercher l'humanité, ça, en France, ça aurait un écho particulier, n'est-ce pas? Alors, c'est, donc, c'est pas l'humanité qu'on cherche, c'est l'homme qu'on cherche, c'est l'homme qu'on aime. Et c'est la personne humaine, qu'on aime. Et donc, quand saint Thomas dit « c'est le bien sous la raison commune de bien », c'est très juste, mais c'est un langage, voyez, très précis, qui veut dire tout simplement le bien spirituel. Le bien spirituel, c'est le bien au-delà du bien sensible. Nous pouvons faire le discernement, voyez, entre le fait qu'on peut aimer une personne à cause de la sensibilité, elle a de beaux yeux. Très bien, c'est un bien sensible quand même d'avoir de beaux yeux. C'est dans la ligne du chocolat, vous voyez, c'est dans la même ligne, c'est quelque chose de sensible. Tandis que le bien spirituel, c'est d'aimer cette personne pour elle-même et pour son bien, pour ce qu'il y a en elle de plus grand et de plus beau et de plus digne. Alors on l'aime pour elle-même, ça c'est le bien, c'est le bien spirituel. L'objet de l'appétit intellectuel ou volonté, c'est le bien sous la raison commune de bien. Alors c'est très beau, mais il faut bien le comprendre, sous la raison commune de bien. C'est-à-dire le bien qui est source de tous les autres biens. Et c'est le bien spirituel qui est source de tous les autres biens. C'est le bien substantiel, personnel, tel que peut le connaître l'intelligence. L'intelligence seule connaît ce bien personnel. Or, la charité n'a pas pour objet un bien sensible, mais le bien divin. Et seule l'intelligence peut le connaître. Et c'est pourquoi le sujet de la charité n'est pas l'appétit sensible, mais l'appétit intellectuel, c'est-à-dire la volonté. Ça, c'est capital de comprendre ça, vous voyez ? La charité, ce n'est pas premièrement une question de sentiment. Je sens qu'il faut aimer Dieu. Ah, très très bien, pourvu que ça dure. Je sens qu'il faut aimer Dieu. Il ne faut pas le supprimer, ne supprimez pas, mais ce n'est pas la charité. C'est une petite grâce sensible que Dieu donne parce que vous en avez besoin, cette petite hameçon. Alors ça, psychologiquement, vous pouvez le regarder. Ça, c'est de l'ordre psychologique. Le psychologique demeure dans le sensible. Ça, il faut le comprendre, hein, une fois pour toutes. Une fois qu'on a compris ça, il n'y a plus de danger de tomber dans le panneau du psychologisme. Le psychologisme demeure dans le sensible, parce que l'imaginatif, c'est du sensible. Seul le point de vue de l'intelligence et seul le point de vue des vertus théologales pénètre dans le spirituel. Mais un spirituel qui n'est pas abstrait, qui est une réalité, la réalité la plus profonde. Notre âme spirituelle. Le psychologue ne peut pas atteindre l'âme spirituelle. Il atteint toujours le conditionnement et tout notre conditionnement est dans le sensible. Ça, c'est capital de comprendre ça. C'est pour ça que le point de vue psychologique ne peut rien nous dire sur le point de vue spirituel, sur le point de vue mystique, sur le point de vue théologal. Parce que le point de vue théologal s'enracine dans le point de vue spirituel, directement. Vous voyez, c'est ça que saint Thomas souligne, que la charité, l'agapé, est directement reçue dans notre appétit spirituel, c'est-à-dire dans notre volonté. C'est là, en premier lieu, où la charité demeure. Parce que le sujet, c'est là où elle demeure. Hein. C'est la maison de la charité. La demeure de la charité, c'est la volonté. C'est la volonté qui est le lieu où la charité est reçue. La charité n'est pas reçue dans notre appétit sensible. La charité n'est pas reçue dans nos passions. La charité n'est pas reçue dans notre amour imaginatif. Dans notre appétit d'idéalité, c'est uniquement dans notre bonne volonté spirituelle qui porte sur un bien spirituel. Le bien spirituel, c'est une personne. Et une personne en impliquant l'âme spirituelle. C'est l'âme spirituelle d'une personne qui est aimée en premier lieu dans la volonté. Il faut bien comprendre, hein, parce que toute l'astuce du démon dans notre monde d'aujourd'hui, avec le psychologisme qui devient si fort, hein, il faut respecter la psychologie à son niveau. À son niveau, elle est très intéressante. Mais il ne faut surtout pas que le psychologisme, vous voyez, prenne un domaine qui est au-dessus du sien. Alors, il faut bien situer exactement où se situe le psychologisme. Et quand on fait du psychologisme, de la psychologie en absolu, c'est ce que j'appelle le psychologisme. Alors à ce moment-là, vous voyez, on ne peut plus monter au-dessus. Il faut bien comprendre que toutes nos activités ont un fil à la patte. Hein? Toujours. L'image merveilleuse de Sainte Thérèse. Oui. Toutes nos activités, les plus spirituelles, ont un fil à la patte. C'est-à-dire que toutes nos activités, dans leur exercice, ont un lien avec l'imaginative, l'imaginaire, avec nos images, et donc avec le sensible. C'est pour ça que la psychologie peut dire « je regarde tout ». Oui, du côté de l'exercice. Mais elle n'atteint pas l'objet propre de mon appétit spirituel, de mon intelligence, des vertus théologales. Elle atteint uniquement l'écorce, leur exercice. Et uniquement. Je fais cette distinction parce que c'est tellement capital, il faut revenir tout le temps sous ces distinctions, les secouer dans tous les sens pour qu'on puisse arriver vraiment à bien saisir et à bien comprendre. Parce qu'autrement, on tombe dans le panneau. On tombe dans le panneau, c'est la grande astuce du démon. Le démon peut agir sur le sensible, il n'agit pas sur le spirituel. Alors vous comprenez que tout son intérêt, c'est de nous faire croire que la psychologie va nous entrer dans le spirituel, parce que par là, lui, il pénètre. Parce qu'il agit sur notre sensible. C'est un psychologue de premier ordre, le démon. C'est merveilleux, vous savez. Faut pas vous mettre à son école, mais c'est un psychologue de première, il connaît toutes les astuces, toutes les astuces au point de vue psychologique. Parce que là, il agit sur le sensible, mais sur le spirituel, il ne peut plus. Sur le bien spirituel, le bien personnel, il ne peut plus. Et sur les vertus théologales non plus. Le démon n'agit jamais directement sur les vertus théologales. Mais il agit sur l'exercice des vertus théologales qui sont liées au sensible. Et c'est dans ce sens-là qu'il agit. Et il nous fait croire justement que les vertus théologales, parce qu'elles sont liées dans leur exercice au sensible, ben oui, ils se confondent. Ça, si vous avez des difficultés là-dessus, on pourra revenir tout à l'heure là-dessus. Il faut les noter, hein, parce que ça c'est très important. C'est très important de bien saisir. Vous voyez cette petite article de saint Thomas qui n'a l'air de rien du tout, mais qui est merveilleux. Il fait la distinction entre le domaine du bien sensible et le domaine du bien spirituel. Alors, dans l'exercice de notre vie, le bien sensible est toujours présent, mais il est dépassé. Il est assumé, il est dépassé. Et nous pouvons alors aimer divinement le bien spirituel. Et nous l'aimons directement et immédiatement par notre volonté, et par notre volonté transformée par la grâce, transformée par la charité. Alors vous voyez bien ici l'analogie que donne saint Thomas. Hein. Au fond, saint Thomas donne trois biens. Le bien sensible, le bien spirituel et le bien divin. Enfin, tout l'article est là-dessus. Le bien sensible, le bien spirituel et le bien divin. Et saint Thomas nous fait comprendre que seul le bien spirituel peut recevoir le bien divin. Parce que le bien divin, il est en premier lieu spirituel. Dieu est une personne, Dieu est esprit. Tandis que le bien sensible ne peut pas recevoir directement le bien spirituel. Dieu peut agir directement sur notre sensibilité, c'est bien évident. Il peut faire des miracles et agir directement sur le point de vue biologique. Mais le point de vue biologique et le point de vue sensible ne peut pas atteindre objectivement directement Dieu. Et ce bien sensible et ce bien ne peut atteindre, ne peut être atteint par Dieu que par l'intermédiaire du bien spirituel. Tandis que le bien spirituel peut être immédiatement transformé par la grâce. Réponse aux objections maintenant. La charité est un amour, mais selon le philosophe, l'amour est dans le concupiscible. La charité est donc dans le concupiscible et non dans la volonté. Ah, vous voyez, cette première objection, c'est Descartes. Saint Thomas a prévu Descartes, hein, c'est très joli ça. C'est extraordinaire, c'est exactement ce que dit Descartes. C'est la première objection. Descartes dit ça. Descartes dit, l'amour, c'est dans les passions. La volonté, c'est une volonté d'efficacité. C'est pour ça que dans notre langage français, volonté est identifiée à une volonté stoïcienne d'efficacité. Oui, parce que Descartes a eu quand même des professeurs un peu stoïciens. N'est-ce pas ? Un peu, tendance stoïcienne. Suarez, c'est la tendance stoïcienne. Alors Descartes est tout à fait dans cette ligne-là. Ça, c'est tout à fait ça. Réponse de saint Thomas à Descartes. Le concupiscible fait partie de l'appétit sensible. Et non pas de l'appétit intellectuel, comme on l'a montré précédemment. Aussi, l'amour qui est dans le concupiscible est-il l'amour d'un bien sensible ? Or, seule la volonté, et non pas le concupiscible, peut tendre au bien divin, qui n'est accessible qu'à l'intelligence. Seul au bien divin, qui est seul intelligible comme tel. C'est pourquoi le concupiscible ne peut être le sujet de la charité. Donc on reprend d'une autre manière. Le concupiscible reste au niveau du bien sensible. Le bien sensible ne peut pas être directement la maison de la charité. La charité ne peut pas demeurer dans le sensible. C'est très beau, dirait ça. Vous voyez, ça nous purifie toute question de sentiment, ça. La piété, hein, qui n'est pas mauvaise, mais la piété sensible. Ah oui, ça, la piété est sensible. Mettre un petit cierge à Saint-Antoine, c'est sensible. Hein, c'est pas de la vertu théologale, mettre un petit cierge à Saint-Antoine. Je n'ai rien du tout contre ça. C'est très, très bon. Mais si toute votre vie est dans le petit cierge à Saint-Antoine, c'est très, très dangereux, vous comprenez. Parce que Saint-Antoine, qui est un saint, veut corriger votre piété. Et elle ne veut pas répondre. De temps en temps, il aura une très grande miséricorde, elle arrive, répondra, et on dira, c'est merveilleux. Chaque fois que je mets un cierge à Saint-Antoine, immédiatement la guérison arrive. Ce qu'il faut faire aussi aujourd'hui, attention avec les charismatiques, c'est qu'il y a ça. On me racontait, c'était l'évêque du Puy qui m'a raconté une histoire très extraordinaire des charismatiques là-dessus. Mais il les aime, il ne les aime pas du tout en opposition, il les aime beaucoup. Mais il dit, faisons attention, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils ramènent tout à la piété en supprimant les vertus théologales. Mais c'est très agréable d'être ensemble parce qu'il fait chaud. Vous voyez, c'est la chaleur. Hein. Il n'y a pas que la chaleur communicative des banquets, il y a quelquefois la chaleur communicative de la prière. Et des alléluia, n'est-ce pas ? Alors à ce moment-là, on ne vit plus des vertus théologales, on vit au niveau du sentiment. Alors les sentiments, c'est très bien, parce que Dieu ne veut pas les supprimer, mais Dieu les purifie. Alors quand la chaleur permet l'exercice des vertus théologales au terme, très bien. Mais les vertus théologales nous mettent dans le désert du cœur de Marie. Alors c'est beaucoup plus brûlant que la chaleur communicative des banquets, mais ce n'est pas sentiment. C'est beaucoup plus brûlant, c'est le ciel. Alors c'est le ciel qu'on ne vit pas toujours à l'état de brûlant. On peut vivre quelquefois uniquement dans la fine pointe de notre âme. Deuxième question, la charité est la plus excellente des vertus, comme il a été dit à la question précédente. Mais le sujet de la vertu, c'est la raison. Il semble donc que la charité soit dans la raison et non pas dans la volonté. C'est très très joli ça. Alors là, on change complètement son fusil d'épaule. C'est extraordinaire. Une spiritualité tout à fait rationnelle. La meilleure façon d'être un contemplatif, c'est d'étudier saint Thomas. J'ai entendu ces choses-là, je ne dis pas qui, mais j'ai entendu ces choses-là. J'ai entendu qu'un professeur de théologie disant la chose la plus merveilleuse au point de vue contemplatif, c'est d'écouter un cours de théologie. Alors on est à ce moment-là comme Marie au pied du maître. C'est quand même quelque chose. La meilleure façon, je l'ai entendu, c'était répété même plusieurs fois. C'était dit parce que c'était une trouvaille extraordinaire. Là, à ce moment-là, c'était la meilleure façon d'être. C'est quand j'ai été étudiant. C'était un de mes professeurs qui dit ça. Maintenant, il est parti dans le ciel. Il doit s'apercevoir que ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est autre chose, la contemplation. Mais à ce moment-là, pour lui, la contemplation, c'était la théologie scientifique de Saint-Thomas. C'était ça, la contemplation. Et donc, écouter un cours de théologie, mais c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est. Au pied du maître, Marie au pied du maître, quand contempler au pied du maître. Hein, ça, c'est exactement ce que dit saint Thomas ici. Vous voyez, c'est qu'alors la charité est reçue dans la raison. Avec le philosophe, on peut dire que la volonté est de quelque façon dans la raison. Ah, ça, c'est tout à fait... que voluntas etiam secundum philosophicum in ratione. Comprenons bien. Et c'est pourquoi la charité, parce qu'elle est dans la volonté, n'est pas étrangère. Alors, à la raison, dites intelligence, j'aime mieux. Saint Thomas met raison parce que Descartes n'est pas encore passé. Mais aujourd'hui, saint Thomas mettrait intelligence, pour que nous ne tombions pas dans le rationalisme. C'est intelligence. Il y a des précisions qu'on doit donner à saint Thomas. Depuis Descartes. Toutefois, et depuis Kant, toutefois, la raison n'est pas la règle de la charité, comme elle l'est des vertus humaines, par la prudence. La charité est réglée par la sagesse de Dieu. Elle dépasse la norme de l'intelligence humaine. Aussi, saint Paul dit que la charité du Christ surpasse en excellence la science. Donc la charité n'a pas, comme la prudence, son sujet dans la raison. Elle n'est pas non plus dans la raison régulatrice, comme celle qui dirige la justice ou la tempérance, mais elle appartient à l'ordre rationnel, étant donné qu'il existe une certaine affinité de la volonté avec l'intelligence. Il y a une affinité entre volonté et intelligence. Et par le fait même, je peux dire que la charité qui est reçue dans l'appétit intellectuel, elle est reçue dans l'intelligence. Vous comprenez, la volonté et l'intelligence n'ont pas d'organes physiques, donc ils ne sont pas localisés. C'est tous les deux l'esprit. Ce qui est dans la volonté est reçu dans l'intelligence. C'est sûr, ça. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Mais il y a une précision dans l'ordre de l'exercice par rapport à l'objet propre. Alors, dernière petite question, objection. La charité s'étend à toutes les actions humaines. Que toutes vos œuvres, dit saint Paul, soient faites dans la charité. Or, le libre arbitre est le principe des actes humains. Il paraît donc que la charité est surtout dans le libre arbitre, comme dans son sujet, et non pas dans la volonté. Ah, ça, c'est très curieux. Troisième objection, ça, c'est encore une autre position. C'est que l'exaltation de la liberté au-dessus de tout. C'est la liberté qui est, c'est aussi cartésien, ça. Le libre arbitre n'est pas une puissance distincte de la volonté, répond saint Thomas. Et cependant, la charité n'est pas dans la volonté en tant que faculté de libre arbitre, dont la fonction est de choisir. Car il ne peut y avoir de choix que des moyens ordonnés à une fin. Or, comme le dit Aristote, la volonté vise la fin elle-même. Donc, la charité, qui a pour objet la fin dernière, doit trouver son sujet beaucoup plus dans la volonté que dans le libre arbitre. Donc voyez bien ce que saint Thomas montre ici, que le libre arbitre est nécessairement au niveau du choix. Le choix regarde normalement les moyens. Et alors par le fait même, la charité est antérieure au choix des moyens, puisque je ne peux choisir qu'en fonction de l'amour. Alors il n'y aurait qu'une petite exception à faire ici à saint Thomas, et je crois qu'il est peut-être bon de la faire tout de suite. C'est que quand il s'agit, voyez, du choix de l'ami, On peut dire qu'on choisit un ami. Et quand il s'agit du choix de l'ami, ça ne porte plus sur un moyen, ça porte sur la fin. Et alors à ce moment-là, le choix va rejoindre ce qui est plus profond dans notre volonté. Et au fond, c'est ce qui existe dans les vertus théologales. Et c'est pour ça que la réponse de saint Thomas est très juste, mais elle n'est que partielle. Je crois qu'il faut aller plus loin encore aujourd'hui là-dessus. C'est que la charité implique un choix. Vous choisissez Jésus. Vous le choisissez, vous l'aimez, vous le choisissez, et vous le choisissez librement. Et donc, il y a quelque chose de très particulier, c'est que la charité, l'agapé, dans son exercice le plus divin, c'est dans un choix, et un choix libre. Alors, je ne dis pas qu'elle est reçue dans le libre arbitre, mais elle assume la liberté. Et c'est ça qu'on doit dire. On arrête 10 minutes et on reprend ensuite. Alors, si vous avez des questions, notez-les et puis j'y répondrai tout à l'heure, tant que possible.
22 décembre 1982, deuxième conférence.
Nous allons voir tout de suite l'article 2. La charité est-elle infusée en nous par Dieu ? Ça se tient, voyez, ces deux articles. Article premier montre comment le lieu où la charité est reçue, l'agapé est reçue, ne peut être que notre capacité d'aimer au niveau spirituel. Puisque le bien divin que regarde la charité, Dieu lui-même, ne peut être regardé qu'à travers le point de vue. Faut répondre tout de suite. La charité est-elle infusée en nous par Dieu ? Alors, voici la réponse. Cependant, l'apôtre dit « La charité de Dieu est diffusée dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » C'est une parole qui est évidemment très très riche. Tous les pères de l'Église l'ont reprise. « Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris, per spiritum sanctum, qui datus est nobis. » Mais tout est contenu dans cette parole, hein. Parce qu'on voit que caritas, c'est agapé, donc elle est diffusée dans nos cœurs profonds, notre cœur profond, par l'Esprit Saint. Vous voyez bien qu'on distingue l'Esprit Saint et la caritas, c'est pas le même. Et en même temps qu'il y a la caritas, il nous est donné. Donc vous avez là, je crois, c'est ce texte est merveilleux parce qu'il rend raison de la position des orthodoxes, il rend raison de la position de saint Thomas. Et il montre qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux. Vous voyez, la position des orthodoxes, datus est nobis, il nous est donné, l'Esprit Saint nous est donné. Alors, s'il nous est donné, mais nous vivons sous le souffle de l'Esprit Saint. Et ça, c'est le propre de la charité. Et la position de saint Thomas, diffusa est, la charité est diffusée dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Donc elle est présente dans nos cœurs, c'est le quelque chose de créé. Mais ce quelque chose de créé, c'est pour que nous vivions de l'Esprit Saint, c'est bien évident. La finalité de la charité, c'est pour qu'on vive l'Esprit Saint. Donc le quelque chose de créé, ce qui est diffusé dans nos cœurs, c'est pour que nous vivions de l'Esprit Saint. Les orthodoxes regardent le point de vue de la finalité, saint Thomas aussi du reste, hein. Il ne faut pas croire que saint Thomas s'oppose à la finalité. Les orthodoxes regardent le point de vue de la finalité, mais ils regardent de façon exclusive, ils ne voient que cela. Tandis que saint Thomas, lui, dans une analyse scientifique, veut regarder comment nous pouvons vivre de l'Esprit Saint. Et nous vivons de l'Esprit Saint justement parce que l'agapé, qui est l'Esprit Saint diffusé dans nos cœurs, cet agapé met en nous la marque de l'Esprit Saint, l'exis. Alors, relisons le corps de l'article. La charité, on l'a vu plus haut, est une amitié de l'homme avec Dieu. Alors, voyez que saint Thomas reprend toujours l'amitié. Est une amitié de l'homme avec Dieu et elle est fondée sur la communication de la béatitude éternelle. Or, une telle communication n'est point dans l'ordre des biens naturels, mais dans celui des dons gratuits, puisque la vie éternelle, dit saint Paul, est en nous par la grâce. Aussi, la charité excède-t-elle, dépasse-t-elle, transcende-t-elle le pouvoir de notre nature ? Or, ce qui dépasse le pouvoir de la nature ne saurait être dit naturel, ni acquis par la capacité naturelle, car un effet naturel ne dépasse pas sa cause. C'est pourquoi la charité n'est pas en nous naturellement. Nous ne l'acquérons point par nos propres forces. Elle est diffusée en nous par l'Esprit Saint, amour du Père et du Fils, dont la participation et la charité elle-même produit en nous. Vous voyez que saint Thomas est très net là-dessus. Cuius participatio in nobis est, ipsa caritas creator. Alors, la caritas in creator, c'est l'Esprit Saint qui se communique à nous, et la caritas creata, c'est l'effet de cette participation. C'est intéressant de voir que l'expression caritas creata, c'est la charité elle-même produite en nous. La charité créée, c'est l'exis. Et la charité incréée, c'est la...